Voilà, donc on va présenter maintenant les journées du verre et de la perle, édition donc 2021, qui auront lieu à Sarpoterie. Alors Sarpoterie, pourquoi? On va le savoir. Nous sommes avec Isabelle Parent et Michel Bourbotte. Michel Bourbotte étant le président de l'association des Amis du Muse Vert. Alors un lieu emblématique, mythique. On peut peut-être redéfinir un petit peu ce concept de Muse Vert. Michel Bourbotte, bonjour.
Oui, bonjour René.
Donc ce
musée se trouve implanté à Sarpoterie, qui se trouve dans le secteur d'Avennes, je ne sais pas si vous connaissez, en dessous de Maubeuge. C'est un musée actuellement très moderne, ultra moderne. Il a été inauguré en 2016. Auparavant, le musée existe depuis déjà très très longtemps, mais il était installé dans une maison de maître à Sarpoterie, et c'était les dirigeants des verreries de Sarpoterie qui au départ étaient dans cette maison, qui a été ensuite un peu à la fois transformée en musée, notamment avec ce qu'on appelle là-bas les bousiers. Mmh. C'est des objets faits par les ouvriers pendant leur temps de travail et autorisés par le patron, de façon à pouvoir qu'ils puissent s'exprimer librement, comme ils le veulent. La seule contrainte qu'ils ont, c'est de ne pas tirer profit de leur création, mais ils étaient libres. Alors tous ces objets se trouvaient donc chez les ouvriers, et une personne qui a été moteur pour la création du musée a commencé à rassembler ces quelques objets qui étaient prêtés par les habitants pour les exposer dans un musée. Et ceci a débuté pour nous en 2001, ce qui fait que là, en 2021, pour des biennales, on en est à la 10e biennale. C'est-à-dire que tous les 2 ans, il y a une exposition vente d'artistes autour des perles et du verre.
Alors, Sarpoterie, pourquoi ce lieu est devenu un lieu de production du verre? Est-ce qu'il y avait un environnement propice à cela?
Oui, tous les musées qu'il y a en France et même ailleurs, au départ, ont été tous les productions, tous les sites verriers en France et ailleurs, au départ, avaient pour but la production du verre. Et pour ça, il fallait trouver de l'énergie, pas cher. Et du coup, ces verreries s'étaient installées dans les endroits boisés. Mm-hmm. Le Nord est boisé, en Alsace-Lorraine, c'est très boisé. Et bien souvent, même, les verreries se déplaçaient en fonction des coupes de bois possibles. Une fois qu'ils étaient installés, ils pouvaient y rester une cinquantaine d'années, et puis après, quand il n'y avait plus de bois ou qu'il fallait aller trop loin pour les chercher, la verrerie, tout bêtement, était déplacée pour produire donc du verre, des objets utiles ou décoratifs.
Il y a eu aussi, bien sûr, de la production verrière dans le bassin minier de Lens, par exemple, à Vingles, hein, une grosse usine.
Oui.
Hein. Et donc là, c'était plutôt le charbon.
Oui, tout à fait, exactement, avec la même origine, si on peut dire, le tout, c'est de trouver de l'énergie pas chère pour faire fondre le verre.
Donc depuis, on a compris qu'il n'y en a plus d'énergie, donc il n'y a plus non plus de production massive de
exactement.
Verre. Par contre, il y a encore des productions de perles, on peut peut-être aussi expliquer ça.
Alors, au niveau de la production perlière, on distingue un petit peu la production perlière de la production de verre au niveau des moyens nécessaires pour y arriver. Actuellement, on peut faire des perles ou des petits objets similaires peu volumineux à partir d'un simple chalumeau, un chalumeau qui fonctionne au propane et avec un concentré d'oxygène. En général, il y a un concentrateur d'oxygène associé, de façon à avoir une flamme très chaude. On peut faire fondre à ce moment-là des tiges de verre, des borosilicates ou des sodosilicates qui permettent donc de manipuler le verre et de l'amener à faire ce qu'on souhaite en faire. En fait, l'investissement majeur pour faire une petite production, c'est les fours de détentionnement. Une fois qu'on a travaillé le verre aux alentours de 1000 degrés, à 800, 1000 ou 1200 degrés, si on le laisse comme ça, naturellement, il va éclater du fait des contraintes de détentionnement, si on peut dire, qui se procurent dans le verre. Donc, en général, on place l'objet fini ou en cours de finition dans un four. Mmh. Le soir, et tout doucement, ne serait-ce que par les déperditions thermiques, ou alors même, c'est des fois régulé électroniquement, le four descend en température, et au petit matin, on peut recueillir les objets, voir dans quel état ils sont, et on peut, à la limite, même les réchauffer à nouveau pour, si on veut, les modifier ou les associer à d'autres, etc. Mmh. Donc ça, tout ça, c'est très léger. À part le four, quoi, bien sûr, qui est gros comme, je dirais, un gros four en micro-ondes. Et ça se distingue quand même des verriers, où là, les fours existent toujours, le principe est toujours le même, mais sauf que tout est démesuré en fonction de la taille de l'objet qu'on va créer. Si on crée un objet de 50 cm ou 1 mètre de côté, il faudra un four correspondant, bien, un peu plus large, et donc... du coup, des investissements bien plus importants et plus lourds à amortir.
Bien sûr. Donc, le musée de Sarpoterie, on peut peut-être en parler un peu. Vous l'avez bien connu à son démarrage et tout de suite, il a eu cette dimension d'intégrer des artistes à, on va dire, une sorte de production qui aussi bénéficie aux visiteurs sous forme d'exposition d'objets d'art.
Oui. Le musée de Sarpoterie a sa propre création de verre avec des stages que peuvent faire les verriers sous la demande du Muse-Verre, hein, proprement dit, pour faire des stages un peu de création, de créativité. Les verriers qui répondent, les perliers qui répondent à cette demande, à ce moment-là, s'ils sont retenus, ils sont logés pendant une durée très variable, ça peut être quelques semaines, des mois, plusieurs mois, et ils partent avec un thème donné et on peut, à ce moment-là, ils ont comme obligation, entre guillemets, de léguer ce qu'ils ont créé sous forme de verre, de léguer ça au musée.
Donc, ils ont appris la technique, mais ils lèguent des œuvres.
Enfin, ils n'apprennent pas la technique. Là,
ils maîtrisent la technique. Outils, on va dire, oui.
Et par contre, ils ont effectivement une créativité... qui peut être très, très varié, mais donc c'est des artistes. Sur un thème donné, ils peuvent avoir des orientations très, très différentes. Mm-hmm. Et ensuite, bah, leurs œuvres, ou tout au moins une partie de leurs œuvres, se retrouvent au musée.
Alors, il y a des artistes qui viennent d'un peu partout, hein, de France, mais aussi de l'étranger.
Tout à fait, tout à fait. Dans on va y venir, là, dans la biennale que nous, amis du Musée du Verre, organisons, il y a des artistes qui sont majoritairement français, mais qui sont d'origine très diverse. Il y a des Allemands, il y a des Belges, bien sûr. On est tout près de la Belgique. Il y a des Hollandais, il y a des Autrichiens, il y a même des artistes qui viennent des pays asiatiques. Et donc, qui amènent leur culture, leur façon de faire et leur inventivité aussi.
Est-ce qu'au niveau international, il y a une reconnaissance de ces objets d'art, en fait ? Est-ce que l'UNESCO se penche sur le problème ?
Vous avez parlé de l'UNESCO. Mmh. Oui, tout à fait. Il y a les perliers, notamment, sont regroupés dans leur propre association qui s'appelle l'APAF, Association des perliers d'art de France. Cette association regroupe donc des perliers d'art, des perliers qui font de la créativité. Et elle, depuis plusieurs mois, elle a, en association avec leur équivalent en Italie, donc à Venise, avec les perles de verre de Venise, chacun de son côté, via les ministères de la culture correspondants des pays, ont approché l'UNESCO et ont obtenu, fin 2020, c'est-à-dire en décembre 2020, l'UNESCO a certifié effectivement que l'art de la perle de verre en France et en Italie faisait partie du patrimoine culturel immatériel de l'humanité.
Alors, est-ce que cet art de la perle en région, ou du verre en général, hein, est encore développé ? Est-ce qu'il y a une production ? Est-ce qu'il y a un circuit commercial aussi, d'ailleurs ?
Je ne sais pas si le circuit commercial est bien formellement organisé. C'est vrai que les verriers et les perliers sont répartis très largement en France, autour de la région parisienne, bien sûr dans la région du Nord, mais également dans le Midi. Et justement, dans la manifestation que nous organisons, nous avons bien sûr un carnet d'adresses qui représente notamment tous les verriers et perliers qui ont participé déjà à notre manifestation dans les années antérieures, mais également des carnets d'adresses alimentés aussi par les propres carnets d'adresses du Musevert. Il y a également, pas loin de chez nous, en Belgique, à Charleroi, un autre musée du verre qui lui aussi organise des biennales depuis pas longtemps, depuis 2019, qui lui aussi organise des biennales. Et donc, ils font venir d'autres verriers, d'autres perliers. Et donc, tout ça fait qu'on a des carnets d'adresses qui s'étoffent. Et c'est à partir de ça qu'on définit finalement les participants aux manifestations tous les 2 ans.
Bon, Isabelle Parent, donc on peut dire que le verre vous inspire et les perles aussi.
Oui, tout à fait. J'ai personnellement suivi des stages et de verre et de perles et je suis un peu tombée dedans, mais c'est très chaud tout de même.
Est-ce qu'il y a des perles rares?
Je ne sais pas encore, mais je peux vous dire que des artistes font vraiment des perles exceptionnelles. Et là, justement, au niveau des ventes, etc., les perliers ont leur propre site. Et forcément, les perliers ont leur propre site et forcément, vendent par eux-mêmes. La biennale, c'est aussi l'occasion de se faire connaître et vendre sur place aussi des perles. Donc, souvent, les personnes qui viennent lors de la biennale repartent presque couvertes de bijoux, si je puis dire. Et ça, c'est fort intéressant. Et donc, forcément, c'est la créativité. Lors de cette biennale, il y a également des démonstrations. Donc, il y a des perles qui se font devant les spectateurs. Et on voit justement la difficulté aussi bien de faire une perle, aussi bien de créer un objet en tant que souffleur de verre. Et je veux dire, c'est un métier. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Moi-même, j'y ai goûté. Je peux vous dire que ça demande un travail d'années. Et c'est pour ça que la reconnaissance de ce métier, notamment au titre culturel immatériel de l'humanité reconnu par l'UNESCO, c'est une grande victoire parce que c'est un savoir-faire qui est reconnu. Et c'est un savoir-faire qu'on ne doit pas perdre. Voilà. Et tout à l'heure, notre président disait qu'au départ, une personne avait réuni les bousillés, etc. Eh bien, je dois dire que c'est Louis Mériot. Et donc, c'était le prêtre du village qui avait repéré qu'effectivement, il y avait des souffleurs de verre et qui a collecté donc tous ces objets, qui a ensuite rassemblé ces objets au château Humbert. Donc, c'était la grande maison dont nous parlait Michel. Et également, il y avait une grange au village. Et dans cette grange, il a fait revenir tous les anciens verriers et qui soufflaient le verre. C'était les week-ends. Moi-même, j'étais petite, j'y allais, j'étais vraiment admirative. Et je me souviens, on achetait des galettes, ça s'appelait des galettes. Et j'ai moi-même encore des objets. Et franchement, c'était la sortie du dimanche parce qu'il y avait les verriers, mais à Sarpoterie, il y avait aussi les potiers. Hein, Sarpoterie, poterie, bien ça sûr. Veut bien dire quelque chose. Et donc, au niveau, il y avait l'atelier de verre, mais il y avait également les ateliers avec les potiers.
Donc, ces métiers du verre et notamment le métier de souffleur n'étaient pas sans risque pour la santé, si je me souviens bien.
Oui, tout à fait. Tout à fait. Et je dirais qu'encore actuellement, on a des personnes qui, actuellement, sont souffrantes parce qu'effectivement, il faut prendre des précautions. On inhale des produits. Moi-même, près du four, le lendemain, j'ai fait un coup de chaleur, j'étais malade parce qu'effectivement, je me suis déshydratée sans le savoir. Et c'est très dangereux. On boit à peu près jusqu'à 8 litres d'eau par jour. Le vrai verrier, il boit 8 litres d'eau par jour. Et c'est très dangereux parce que, je vous dis, on inhale, on peut se déshydrater, etc. Et c'est un métier à risque.
Voilà, donc des maladies qu'on pourrait dire professionnelles peut-être ont été repérées à la suite de cette industrie particulière. Chaque métier, évidemment, ses facteurs de risque. Hein. Qu'est-ce qu'on peut dire après ces temps de production intense du verre, cette industrie, on peut dire florissante à un certain moment, culturellement, parmi les habitants, est-ce qu'il reste des traces de ça, des souvenirs, une envie aussi de porter votre exposition, pourquoi pas, puisque ça doit quand même être une partie de leur vie qui transparaît au travers de votre événement?
Oui, alors il faut savoir que en général, les habitants ont toujours un objet en verre chez eux. Moi-même, mes grands-parents, je sais que chez moi, j'ai des bousillés un peu cassés, etc. Mais voilà, ça vient de Sarpoterie. Tout le monde dans la région a son quelque chose, sa petite galette, etc. Et il y a également un projet par la suite qui serait de recollecter encore des pièces, mais temporairement, sur une exposition temporaire, pour justement collecter des pièces de particuliers. Bon, faut savoir qu'une pièce, si on la prend, on l'expose, il y a une assurance, ça coûte très cher. Si jamais on casse la pièce, c'est fini, elle est morte, la pièce. Et donc tout ça, c'est aussi des risques au niveau des expositions. Mais il est clair qu'à Sarpoterie, il y a des œuvres d'art chez les particuliers. Alors, Louis Mériot, à l'époque, a réussi donc à collecter quelques pièces. Mais il est très clair qu'il y a des pièces splendides qui sont chez les particuliers encore à l'heure actuelle.
Donc, au niveau des perles, on peut dire qu'il y a des objets précieux, hein, des bijoux qu'on fait avec des minerais, des perles de culture ou des choses précieuses. Est-ce que le verre a ses lettres de noblesse et est-ce qu'il y a des, comme je disais un petit peu, des perles rares qui sont très particulières dans l'univers de la production de perles?
Alors, il faut savoir que les perles, enfin bon, moi je ne connais pas trop l'histoire, mais les perles, ça remonte au Moyen-Âge. Hein, il y avait déjà des perles au Moyen-Âge. Il y a des perles en Afrique, etc. Chacun a ses perles. D'ailleurs, il y aura aussi des perles exposées qui viennent de différents pays. Il faut savoir que dans les perles, on peut injecter de l'or, de l'argent, qui donne également de la valeur à la pierre. Puis après, il y a le travail de finition, etc. C'est tout un art. Hein. Moi, je sais que j'ai participé à un stage. Je peux vous dire que maintenant, quand je regarde le travail d'une perle, je trouve ça extraordinaire, quoi. Je me dis, mais combien de temps a-t-il fallu à cette personne pour en arriver là? Et sans parler de la perle, on peut faire également des petits objets. On a des artistes qui font, par exemple, qui travaillent pour tout ce qui est milieu, je veux dire, la haute couture, la joaillerie, etc., pour présenter, que ce soit aussi bien des bouchons de parfums, etc. Et je dis, on peut faire énormément de choses avec le verre.
Voilà, donc on va revenir à cet événement hein, que vous avez préparé. Donc, vendredi 10 septembre, il y aura un certain nombre de choses préliminaires, mais il y a surtout le 11 et le 12 ouverts au grand public, j'ai bien compris?
Oui, tout à fait. Si vous voulez, le 10 septembre, il y aura l'inauguration avec la remise du fameux certificat de l'UNESCO. Donc, ça sera un événement avec tous les officiels. Et puis, le lendemain, les deux jours suivants, c'est ouvert à tout public et les exposants seront là. Et donc, ça permet d'assister aux démonstrations, de s'entretenir avec les artistes, d'acheter également les pierres, de déguster les spécialités locales aussi. On peut manger, on peut boire, on peut passer une excellente journée. Ça, c'est intéressant, c'est un but de sortie. sans compter qu'il y a le Val Joly juste à côté, où on peut encore aller se promener, faire du bateau. C'est un week-end chargé dans ces cas-là.
Voilà, donc ça se passe à Sarpoterie, on va le dire, au musée du Vert. Et il y a les amis autour, les amis du Muse Vert. Et donc c'est votre association des amis du Muse Vert qui porte ce, on peut dire, festival. Hein, c'est une biennale, hein, comme on l'a dit, la 10e cette année.
Oui, tout à fait. Ce sont des bénévoles, dont des personnes dont les parents étaient eux-mêmes verriers, dont des personnes qui ont connu également Louis Mériot, qui sont à l'origine, qui ont connu tout l'historique. Donc ce sont des bénévoles, effectivement, qui ont assisté à toute cette montée en puissance. Michel et moi, nous sommes les derniers arrivés, on va dire. Mais les autres sont là depuis très longtemps et ils connaissent... très bien, les événements et toute l'histoire.
Alors pour les visiteurs donc, qui se rendront les 11 et 12 septembre à Sarpoterie, donc au musée du verre, est-ce qu'ils peuvent pratiquer, l'art du verre, on peut dire ça comme ça ?
Je ne pense pas, parce qu'il y a un problème de sécurité. Alors après, je ne sais pas, est-ce qu'un artiste peut éventuellement prêter son chalumeau ? J'en doute. Il y a un problème de sécurité. S'il y a un accident, un coup de flamme, c'est à manier précautionneusement.
Et est-ce qu'éventuellement, il peut revenir après, dans le cadre d'un stage, accompagné, là,
tout
dans
à fait,
des conditions ?
Tout à fait, oui, oui. C'est, d'ailleurs, l'intérêt, c'est de dire « Ah tiens, je ne savais pas qu'on pouvait faire des stages, ah bon, etc. » Il y a des stages, mais il y a des ateliers aussi, par exemple, une journée... il y a des enfants qui viennent participer à des ateliers. Tout est possible.
Voilà. Eh bien, je pense que le mieux, c'est d'aller peut-être faire un petit tour sur Ami Muse Vert, etc., avec les biennales, où vous pourrez accéder au programme de ces journées. Il me reste donc Isabelle Parent et Michel Bourbotte à vous remercier et puis à souhaiter bon vent à cette édition.
Merci à vous.
Merci, puis à très bientôt pour tout le monde.
Vous écoutez Radio Campus 106.6 FM, nous étions en direct, donc c'est un grand plaisir de faire des émissions en direct, vous savez. Ah, c'est quand même un grand bonheur.